France Inter.
Cinéaste au style unique, poétique, ludique, réjouissant, graphique et reconnaissable entre tous, Wes Anderson a notamment réalisé La famille Tenenbaum, La vie aquatique, à bord du Darjeeling Limited, Moonrise Kingdom, The French Dispatch, Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens, The Grand Budapest Hotel, Rushmore et Asteroid City. Sa fantaisie mélancolique et jubilatoire se retrouve dans son dernier film, coécrit avec Roman Coppola, The Phoenician Scheme, en salle le 28 mai. On y suit les aventures de Jaja Corda, Magna aussi menteur et amoral qu'irrésistible, incarné par Benicio del Toro, ennemi public numéro 1 du monde de la finance internationale qui souhaite ardemment son décès. Défiant de façon miraculeuse toutes les tentatives d'assassinat, même quand l'un de ses organes jaillit dans sa main suite à une énième explosion d'avion, il va cependant séjourner de plus en plus souvent dans un monde parallèle en noir et blanc qui évoque le fameux tribunal de l'au-delà. Accompagné de Bjorn, tuteur entomologiste de Bohème campé par le drôlatique Michael Cera et de sa fille Liesel, future nonne incarnée par Mia Threapleton, dont il veut faire sa seule héritière, celui qui confie ses grandes idées à des boîtes à chaussures et mange des omelettes dans son bain va tenter d'escroquer une dernière fois tous ses partenaires commerciaux. Un petit bijou virtuose, donnant l'impression au spectateur de se trouver en caméra subjective à l'intérieur d'un opéra. J'en profite pour rappeler que la Cinémathèque française à Paris consacre en ce moment une rétrospective à l'œuvre de Wes Anderson, accompagnée d'un beau catalogue intitulé « Archives ». La traduction de cet entretien sera assurée par Michel Zlotowski. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Wes Anderson.
Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous?
Ça va et vous?
Très bien, merci.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Well, I'll tell you, eh bien, in the cinema, the
au thing cinéma, that has, les that has, choses has grabbed me lately. Qui m'ont vraiment frappé. Je connaissais les films d'Anthony Mann, mais je ne connaissais pas bien. Je connaissais les westerns, je connaissais quelques films noirs du départ, mais ces dernières années, j'en ai vu de plus en plus. Et je suis rentré beaucoup plus profondément dans ces films, soudain. J'en ai regardé un. C'est Strangers in the Night. C'est un film où il n'est même pas crédité, mais c'est lui qui l'a repris en main et c'est vraiment son film. Donc le dernier enthousiasme, c'est l'œuvre d'Anthony Mann.
Dans la longue liste des phobies de Lovecraft, on trouve la géométrie non euclidienne. Est-ce que l'asymétrie figure dans la vôtre ?
J'aime l'asymétrie aussi. Probablement, mes films, il y a beaucoup d'asymétrie dedans, autant que d'asymétrie. Je ne réfléchis pas à ça, parce que je sens que j'ai créé un système sur la façon de faire passer l'information rapidement dans mes films. C'est une méthode. Et je fais des films courts, et il y a des systèmes pour qu'il y ait beaucoup d'informations très clairement et très rapidement. Et je pense que la surface de mes films a commencé à dominer la façon dont ils sont perçus. Il y a beaucoup de gens pour qui ce qu'ils voient d'abord, c'est la symétrie des cadrages et la façon dont on les filme avant même qu'ils aient l'expérience des personnages. C'est un effet secondaire de mon système rigide que j'ai développé. Et je vais dire autre chose. Un des autres enthousiasmes que j'ai eu. Est-ce que vous avez lu Emmanuel Carrère, le livre d'Emmanuel Carrère? Vous le connaissez? Le plus récent.
Sur les procès de Charlie.
Exactement. Et c'est vraiment un livre très puissant, un très beau livre. Tellement intéressant. Et j'étais là, vous étiez là probablement aussi. Pas au tribunal, mais à l'époque des événements. Ce livre m'a beaucoup parlé. Et maintenant, il a un livre sur Philip K. Dick et un autre sur cet auteur russe, ce personnage, Limonov, Édouard Limonov. Oui. Et donc, il y a un film qu'il a réalisé, La Moustache. Moi, j'ai ce... J'ai aussi le film de Limonov.
Hein.
Bon, c'est un autre de mes enthousiasmes.
Est-ce que cadrer, classer, ordonner, cartographier, chapitrer, ce que vous faites dans tous vos films est une façon d'apprivoiser le chaos du réel ?
Je pense, oui. C'est probablement... Peut-être que c'est quelque chose de thématique dans mes films. Je pense que beaucoup de gens ont cette expérience de mon film comme vraiment une démonstration de contrôle. Moi, je ne les réalise pas avec ce sentiment. Je les fais avec cette expérience de sculpture, de groupe. J'ai tellement de collaborateurs et je travaille avec la plupart d'entre eux depuis de très nombreuses années. Mais réaliser une histoire, c'est comme créer quelque chose à partir du chaos. C'est peut-être en réaction à la façon dont la vie est incontrôlable. C'est peut-être pour ça qu'on se raconte des histoires, pour donner un ordre, mettre un ordre, donner un sens. Donc peut-être qu'il y a un niveau où c'est ce qu'on fait avec chaque histoire, puis il y a un autre niveau où je suis en train de démontrer ce que fait l'histoire, le narratif.
La mort est présente dans beaucoup de vos films, et la mélancolie aussi, mais vous ne la traitez jamais avec gravité, plutôt avec une sorte de flegme britannique, quelle que soit l'origine des personnages. Êtes-vous plus émotif que vos personnages ?
La mort, beaucoup de mes films sont sur des personnages en deuil, oui. Et ce nouveau film... une sorte de nuage de mort. Il a perdu trois femmes, donc peut-être qu'il les a assassinées. Et la mort de son père survole tout cela, mais la grande mort dans le film, c'est la sienne propre, qui se produit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et il réussit à en sortir, à revivre. Et pour moi, je ne sais pas si je suis plus émotif que les personnages de mes films. Je pense probablement que mon expérience de la réalisation et les émotions des acteurs quand ils jouent la scène, ça m'affecte beaucoup. Et le sentiment de famille, de créateur de films, ça m'affecte un peu comme si c'était ma propre famille. Je ne peux pas vous dire le niveau d'émotion, mais... Je dirais que c'était... C'est pas comme si j'avais l'intention que mes films soient un exercice brechtien. Je ne veux pas qu'ils soient distants des gens. Mais parfois, les gens ont des expériences... Vous savez, je le dis souvent aux gens. Revoyez-le. Revoyez-le une seconde fois. Parce que peut-être qu'il y a des obstacles... Parce que quand les gens véritablement comprennent le film, c'est vraiment plus simple pour eux.
Votre œuvre est remplie de francophilie. Dans votre dernier film de Phoenician Scheme, vous faites dire à un de vos personnages qu'être soupçonneux est très français. J'aurais aimé en savoir plus.
Ah oui, ce personnage, c'est Marcel Bob.
That's Mathieu Amalric.
Inspiré de Melville.
Peut-être un peu, oui, Bob le Flambeau, je pense.
Oh, magnifique
mais,
film.
Mais aussi des autres de...
Becker,
oui, touché par Auguste Bier, ou des autres, Lino Ventura, Jean Gabin. And what else, I mean,
et qui encore?
Le milieu.
Le milieu,
I mean,
voilà. Je pense en fait que c'est une création littéraire, ce genre de gangster. Vous savez, dans une boîte de nuit, avec un costume de trois pièces. Je ne sais pas si ça existait. Moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs qu'au cinéma. C'est dans le cinéma français, c'est dans le cinéma américain. Je pense que quand il dit c'est très français, il essaye à tout prix de résoudre un problème. Et ce qu'il dit, c'est très français dans le film. Il dit...
Oh, yes, his suspicion.
Ah, oui.
I don't know that that's so French.
La suspicion, je ne sais pas si c'est tellement français, finalement.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
At this moment... Rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Zsa Zsa Korda. International businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's sixth recorded airplane crash. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl.
I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later.
Wes Anderson, vous sortez de Finition Scheme, et pour le personnage de Zsa Zsa Korda, qui est incarné par Benicio del Toro, vous êtes inspiré de mania célèbres comme Aristote Onassis ou Calouste Gulbenkian, surnommé Monsieur 5%, comme dans le film, mais aussi du père de votre épouse, auquel le film est dédié, oui. Fouad Maalouf.
Oui, je comprends. Yes, I think... The first inspiration,
oui, la première inspiration pour le film, la première idée, c'est à voir avec des manias européens et des très emblématiques.
Onassis,
Aristote Onassis.
You know, there's one called, Johnny Agnelli, oh, but there's one called Arpad Plesh that I read about.
Plesh.
And the image of these
et leur image. Like, de ces personnages, c'est comme s'ils étaient dans un film d'Antonioni. Les lunettes, le costume, les montres, les bateaux, les yachts. Mais en fait, l'évolution des personnages, tout d'abord, il y avait une référence, oui. On a lu un petit peu sur Calouste Gulbenkian,
whose undertakings in the Middle East
dans ce qu'il a fait au Moyen-Orient a changé l'aspect de toute la planète et certainement de cette région. C'était un intermédiaire dans les accords pétroliers. C'était le premier à faire cela et ça a absolument tout changé. Certains des détails de la vie de Gulbenkian ont pénétré notre film, interprété de diverses façons. Mais il y a une inspiration là, une inspiration plus grande encore, sur une plus petite échelle. C'est le père de ma femme, Fouad, qui était mon ami.
Et
c'était un ingénieur, et c'était un homme d'affaires aussi.
His personality
et ses personnalités, ses projets,
d'une
certaine manière, ont formé notre récit plus que toute autre chose. Et ses personnalités, son visage aussi, sont devenus emblématiques pour moi de ce que l'on recherchait pour Benicio del Toro. Benicio, dans ce film, sa présence est tellement hypnotisante. Il n'y a pas de visage tel que celle-là dans le cinéma.
C'est vrai, il a le regard de Charlotte Rampling, mais c'est un avis personnel. Vous lui avez donné le nom de Zsa Zsa Gabor, c'est un nom hongrois. Vous aviez déjà mis en scène l'Europe centrale dans The Grand Budapest Hotel, qui s'inspirait entre autres de vos lectures de Zweig ou d'Anna Arendt. Qu'est-ce que représente pour vous la Mittel Europa?
Vous savez, en partie, c'est que ce personnage... Quelque chose en lui peut faire croire qu'il est hongrois. Ce personnage doit être proche. Peut-être qu'il ne vient pas de Turquie ou du Liban, mais il en était proche. Il pourrait être grec. Et on a pensé que, il est un peu hongrois. Il est cosmopolite. C'est un mélange. Mais on a pensé que c'est une partie de cela. Et le nom qu'on a choisi, et on l'a choisi parmi, pour en avoir l'esprit, c'était Korda. Vous savez, il y a une famille de cinématographes de Korda. Et le seul prénom que j'ai entendu, c'est l'actrice. Et c'est devenu Zoltan Korda. Et mon ami, Nicolas Saada, son père était aussi ce type d'homme, ce type d'homme d'affaires que tout le monde connaît dans les restaurants et qui, en fait, il a l'air d'être le propriétaire quand il rentre dans le restaurant. Il avait un surnom, on se l'appelait Gigi. Et franchement, le nom vient de Gigi.
Ernst Lubitsch fait partie de vos cinéastes préférés. Il est inspirant pour vous pour le tempo et l'empreinte comique qui lui vient du théâtre. Vous avez fait du théâtre adolescent et il y a beaucoup d'allusions au théâtre dans votre œuvre. Quand on regarde The Phoenician Scheme, on a l'impression parfois de se trouver en caméra subjective à l'intérieur d'un ballet ou d'un opéra. C'est Alexandre Desplat qui signe la musique une fois de plus et il dit dans une interview qu'il rêverait de faire un opéra avec vous. Que pensez-vous de cette idée ?
On en a parlé. Je pense qu'on devrait... J'aimerais faire une production théâtrale avec Alexandre au cinéma. Et je ne sais pas. Mais pendant très longtemps, on a discuté. On est allé au Palais Garnier pour y réfléchir. Que faire ? Quelque chose se fera.
Souvent, dans vos films, il y a des personnages blessés qui ont des yeux au beurre noir, un doigt en moins, un bandage. Enfin, vous les malmenez un peu physiquement, notamment dans votre dernier film. Quel est votre rapport au corps et à la douleur physique ? Parce que vos personnages sont toujours blessés.
Ah, yes. Well, maybe this one more than any.
Ben, ici, plus que partout ailleurs, dans celui-ci. Benicio del Toro, il saigne à partir du premier moment où on le voit.
Et
il ne le sent pas dans le film. Et Benicio, je pense qu'il a senti la douleur chaque jour de tournage. C'est un acteur qui veut vivre en regardant par les yeux de son personnage tout le temps pendant le tournage. Pas en quittant le tournage, non, mais quand il est sur le tournage, il sent ce que sent le personnage. Et c'est vrai, ce que ce personnage ressent, c'est la douleur.
Mais
je pense que la raison pour laquelle on l'a fait vivre tellement de torture physique dans ce film, c'est en partie pour prouver qu'il ne peut pas être tué. Il est d'une résistance tellement brutale à la destruction. Et ça fait partie de la raison pour laquelle je ne peux pas imaginer aucun autre acteur dans ce rôle, parce qu'il y a très peu d'acteurs qui ont cette durabilité extraordinaire de Benicio.
Vous mettez en scène une future nonne, qui est la fille de Benicio del Toro, dans À bord du Darjeeling Limited. Le personnage campé par Angelica Houston était religieuse en Inde. Et je voudrais vous demander votre rapport à la foi ou à la transcendance. Et est-ce que vous pensez que quelque chose existe après la mort ?
Je ne crois pas. Mais je dirais que je pense que tout athée a cette expérience de sentir très très petit dans un univers inconnu, d'une complexité infinie et de distance. Et cette sensation, cette émotion, c'est de là que ça doit venir. Cette foi doit venir, je pense. Quoi que ce soit qu'on décrit comme spirituel, cette expérience neurologique que l'on qualifie de spirituelle, je pense que vous partagez cela, que vous soyez croyant ou pas. Et je sens que il y a quelque chose de mystique qui m'attire de plus en plus dans mes films. Et dans le cas de ce dernier film, ça prend la forme d'un motif biblique. C'est plein d'images bibliques. Et oui, c'est pas ma première nonne au cinéma.
Pharaonique même.
Yes, do we have a pharaonic reference? I mean, we have
pharaonic
dans le décor, oui.
Dans le décor,
oui.
Yes, it's a yes because it's in an Egyptian hotel.
Parce que c'est un hôtel égyptien.
You know, I think you know, it's a common thing with a man like this.
Avec un homme comme ça, sa vie est remplie de symboles de pouvoir. On a une version égyptienne antique qui est dans un hôtel qui a été converti par un conglomérat américain en hôtel à thème. Mais ce personnage, sa maison est pleine de peintures, de sculptures, d'arts décoratifs de toutes sortes, de bijoux, tous c'est de l'art. Ce sont des totems culturels, mais c'est des symboles de pouvoir. Il y a quelque chose de royal, de régalien, là.
Vous avez imaginé un personnage menteur, amoral, irrésistible, qui ne pense qu'à gagner de l'argent. Est-ce que vos études de philosophie vous ont permis de voir par-delà le bien et le mal ?
Ce personnage,
il a
une boussole morale. Il sait ce qu'est le bien et le mal. Et il va dire, bah oui, je dois faire du mal cette fois-ci. Ça ne l'empêche pas d'agir, mais il a une conscience. Et il ne se sent pas à l'aise avec ça. Son frère dans l'histoire est pire. Et moi, je sens que son seul intérêt dans les questions éthiques, c'est de savoir le pratique. Mais il sait ce que pensent les autres. Mais lui, il n'a pas de réaction émotionnelle à faire le mal. Ce personnage, je pense, depuis le début du film, il y a quelque chose en lui qui...
Il
y a un potentiel qu'il soit quelqu'un de plus gentil, quelqu'un de meilleur. C'est là, même s'il est vraiment très très sombre, mais on sait dès le début qu'il y a quelque chose de plus doux en lui.
Il a 9 fils qu'il méprise, comme plusieurs pères dans plusieurs de vos films. Il voudrait que ce soit sa fille qui reprenne ses affaires. Et c'est récurrent, puisque lui justifie aussi sa solitude et son amoralité par le fait de ne pas avoir été aimé petit. C'est récurrent, cette histoire d'être mal aimé par ses parents dans votre œuvre.
Yes. And you know, this one, I think he himself traces it back to his own nursery.
Le fait remonter à sa propre petite enfance. Il n'était pas aimé. Il est très, très clair là-dessus. Il n'a pas grandi avec de l'affection, de quelque sorte que ce soit. Alors pourquoi est-ce que moi, je raconte des histoires telles que celle-là ? Je
n'ai
pas grandi dans ces circonstances-là, mais je pense qu'il y a probablement des événements dans mon enfance qui ont déclenché ce type de narration de ma part. Et c'est probablement très, très simple.
Whether you lose your parents or the
family, que se passe-t-il si vous perdez vos parents ou si la famille est...
Whether the family loses its stability,
si la famille perd sa stabilité, son équilibre, ça probablement
kind of it sinks in
and ben, ça, it, and it, and for me, I, ça I, vous pénètre.
Probably the simple
et peut-être que c'est savoir avec ce qui s'est passé au sein de ma famille quand j'étais enfant. C'est aussi simple que ça. Mais bon, je ne sais pas finalement.
Dans vos films, les enfants se comportent souvent comme des adultes et les adultes se comportent souvent comme des enfants. Quel enfant étiez-vous ?
Ah oui. Well, you know, when you make a film,
quand on fait un film, c'est un jeu un peu.
C'est
jouer comme au théâtre, mais aussi comme jouer avec quand on est enfant.
Actors, to some degree,
jusqu'à un certain point, veulent être les enfants dans le film. Ils veulent absolument jouer à faire semblant. Ils ont une histoire à raconter. Comme les enfants, les meilleurs acteurs vont se donner complètement à l'histoire. Et souvent, les enfants peuvent être très très bons acteurs, ceux qui peuvent le faire.
Eh bien,
leur dévouement à la scène est total et complète. Ils vont disparaître dans la scène. Tout ça, c'est comme un jeu d'enfant. Mais d'un autre côté, si vous êtes dans la situation où vous êtes le réalisateur du film, vous voulez jouer avec eux, vous voulez créer un environnement pour le jeu, mais vos buts sont complexes et durs à atteindre. Et il y en a beaucoup chaque jour.
Et
il y a tellement de choses qui se produisent en même temps qu'il faut être l'adulte en même temps.
Donc
je pense que ce que vous décrivez comme un thème récurrent dans mes films, c'est une partie de l'expérience de la réalisation des films.
Mais vous, quel enfant étiez-vous ? Est-ce que vous ressemblez au personnage de Rushmore ?
Le personnage de Rushmore était un peu moi et un peu de Owen Wilson.
Qui était votre camarade à l'école ?
Oui, exact. His aunt.
Sa tante, la tante de Wayne.
She read our script when
elle
we were
a lu nos scénarios lorsqu'on avait 20 ans ou lorsqu'on les a écrits, 21 ans. Et c'était son observation. C'est bizarre, hein?
C'est
les deux mis ensemble dans un personnage.
Oui,
je m'identifie beaucoup avec certains aspects de ce rôle, oui. Mais il y a aussi certaines parties qui sont celles de mon ami.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
I don't know where you belong. Sometimes I think I've put you in a frightful position. Perhaps you never should have been born.
But I am born. Someday I shall find out where I belong.
Wes Anderson, il est souvent question de valises et de voyages dans vos films, et j'ai lu que le fleuve de Renoir vous a donné l'idée de l'Inde pour À bord du Darjeeling Limited.
Yes, it's true.
C'est vrai.
Yes, I mean, you know, Renoir, I love, but I hadn't
J'aime
seen
Renoir,
that film.
Mais je n'avais pas vu ce film jusqu'à.
You know, shortly, you know, two years before we made that movie.
Deux ans avant ce film-là.
English language.
C'était pas. Il n'y avait pas une bonne version en langue anglaise.
I saw it.
You know, je l'ai vu.
Je l'ai vu parce que Martin Scorsese,
la fondation du cinéma de Scorsese, l'a restauré. Et moi, je fais partie de la fondation. Donc, je l'ai vu à la première restauration. Et ça a fait une grosse impression sur moi. Et puis ensuite, je suis revenu au film de Sajid Gray.
Et
j'ai revu des films que j'avais jamais vus précédemment. J'ai étudié Ray comme je l'avais jamais étudié. Et j'ai vu les films de Louis Malle, tout le cycle de films de Louis Malle, ses films documentaires sur l'Inde. Et puis je suis allé en Inde, mais avec une perspective cinématographique tirée de ces trois auteurs.
And I would say, you know, that gave me a sort of.
Ça m'a donné une sorte de.
I went into India in a sort of cloud of.
J'étais dans un nuage fictionnel.
And a documentary point of view. But I went
à partir des documentaires. Mais je suis allé avec les images de l'écran. Et soudain, ça s'est ouvert quand je suis allé. Je suis allé à plusieurs reprises. Quand on a commencé à écrire, et on a voyagé en train. Et par d'autres moyens de communication, mais on a voyagé en écrivant ce script. Et j'ai probablement répondu à cette question beaucoup plus en longueur que vous ne le pensiez. Un voyage, ça m'attire toujours comme un point de départ pour un film.
Vous venez de citer un cinéaste que vous adorez, qui est Satyajit Ray. Il y a des clins d'œil à ce cinéaste dans votre œuvre, comme Jacques Tati, Orson Welles. Est-ce que vous citez souvent les cinéastes que vous aimez dans vos films?
Yes, I quote them. I think
je les cite.
First, I'm inspired by.
Tout d'abord, ils m'inspirent. Ces réalisateurs.
By books, by movies, by
je suis inspiré par des
so
livres, des photographies, des films. Quand je cite,
really,
c'est jamais vraiment pour rendre hommage.
For any other reason,
pour toute autre raison, sauf améliorer mon film, c'est plus un petit peu de l'ordre du vol. Mais j'aime voler et partager, la source. Parce que si d'autres personnes découvrent des choses à travers mes propres films, je dirais que ça, c'est un grand plaisir. Et parlant de Satyajit Ray, on a présenté à Cannes récemment une restauration grâce à la fondation du film, la Film Foundation, un film de Satyajit Ray, c'est Jour et nuit dans la forêt, qui est un film merveilleux. Il y a une projection là, à la salle Buñuel, dans le cadre de Cannes Classique.
Sound running, when you're ready.
The zoos are very important to animals. They're a bit like homes, like nursing homes, and for poor animals and people like old people.
J'ai découvert une autre de vos influences que je ne connaissais pas. C'est la série Creature Comforts. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Parce que ça a l'air très rigolo. Je l'ai découverte grâce à vous.
Oui, yes, I didn't. I saw them only.
Je l'ai vu lorsqu'on préparait.
The fox.
C'est fait par les studios Aardman au Royaume-Uni. Quand vous faites des films d'animation. Cette méthode-là, ces films sont faits à partir de documentaires qui ont été animés. L'audio est totalement naturel. C'est du son des documentaires. C'est des interviews, mais c'est intéressant. Les animateurs ont trouvé une façon d'animer tous les détails, toute respiration, tout son particulier qui a trouvé sa voix sur la bande sonore. Et ils ont trouvé une façon d'animer cela. Ils sont très inventifs, de leur façon très, très originale.
En ce moment, il y a une rétrospective qui vous est consacrée à la Cinémathèque française à Paris, visible jusqu'au 27 juillet. Et dedans, on peut voir plusieurs œuvres de vos fidèles collaborateurs, dont celui avec lequel vous collaborez depuis 2013, qui est Simon Weiss, maquettiste allemand, qui a débuté sa carrière avec Terry Gilliam sur le film Les Aventures du Baron de Münchhausen, que je ne peux que recommander aux auditeurs. Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous l'appréciez?
C'est le premier film de Simon Weiss, is Münchhausen? Really?
Ah,
I didn't know that.
You know,
I met him when we were doing Grand Budapest Hotel.
Quand on faisait Grand Budapest Hotel, il a commencé à travailler avec moi. La chose intéressante avec lui, c'est que c'est un réalisateur de maquettes en Allemagne. C'est un des grands créateurs de maquettes. Il a une très très bonne équipe. Mais une fois qu'on a commencé à travailler avec lui, en faisant ce qu'il fait d'ailleurs, des miniatures, de toutes sortes de choses historiques, nous avons commencé à réfléchir à lui à chaque fois qu'on avait un objet grand, petit, et on ne savait pas exactement comment l'obtenir. On a commencé, au lieu de chercher quelque chose dans la vie réelle, on allait le voir lui, et que lui nous l'invente pour nous. Il peut faire absolument tout. Et dans Asteroid City, mon film précédent, il a fait une banque de distributeurs automatiques qui était parfaite, qui n'aurait jamais pu exister différemment. Et ça fonctionne de façon particulière aussi. Donc oui, Simon est aussi Andy Jens, qui fait des marionnettes pour nous.
And Adam Stockhausen,
et Adam Stockhausen,
la
directrice des costumes,
Sanjay Sami, our key grip.
Sanjay Sami. Donc il y a un groupe de collaborateurs là que j'ai réuni autour des années qui ont vraiment étendu leur pouvoir pour faire n'importe quoi.
Il y a souvent des tableaux dans vos films, des tableaux fictifs assez régulièrement, mais dans le dernier film de Phoenician Scheme, on voit des Renoir, Magritte, Winnix, von Eren. Est-ce que ce sont de vrais tableaux?
Yes, well. We thought because,
on pensait parce que, bon, tout d'abord, ce personnage, c'est un collectionneur, c'est un possesseur, il veut posséder les choses.
Ce
n'est pas quelque chose d'inhabituel pour quelqu'un de très riche. Ce qui est inhabituel, j'ai fait 11, je ne sais plus combien de films j'ai réalisés, mais je suis à l'aise avec les façons dont les choses sont faites. Et souvent, je vais le faire d'une manière différente. Et dans le cas de ce dernier film, on faisait face à un problème de trouver des faux, créer des peintures originales. Ou alors je me suis dit, pourquoi on n'aurait pas les vrais tableaux? Pourquoi est-ce qu'on trouverait un Magritte et un Renoir? Et donc on a décidé d'utiliser les véritables œuvres. C'est compliqué parce que ça signifie des problèmes d'assurance, des gens qui les manipulent avec des gants, des équipes de sécurité. On ne peut pas utiliser n'importe quel projecteur pour les éclairer. Il y a beaucoup de problèmes et de défis, mais c'était fabuleux parce que les acteurs pouvaient voir les tableaux, et ils ont été présents de façon cérémonielle, on attendait que tout le monde soit sur le plateau, et soudain, les peintures étaient montrées, et ça a mis une telle aura sur le plateau, c'était parfait pour nous de le faire de cette manière.
comme dans les films de Truffaut ou de Godard, il y a des livres dans pratiquement tous vos films. Oui. Et souvent, ce sont des livres que vous semblez avoir inventés, comme par exemple dans The Phoenician Scheme, Jaja Korda lit Depictions of Blasphemy in Gouache,
ah oui.
volume 3, 16e siècle.
Ah ouais.
Est-ce que vous inventez toujours les livres ou est-ce qu'il y en a qui existent?
Je pense que nous avons inventé tout. Oui, tout. But I think, you know, on my films, we've invented
mes films
hundreds of
ont
books,
inventé des centaines de livres, je pense.
I love books.
J'aime
and
les livres.
It's interesting. You mentioned Godard.
C'est intéressant que vous mentionniez Godard et Truffaut.
You know, in Godard,
Godard,
the books are often
les livres sont souvent.
Godard will do the unusual thing, which is have a character.
Godard.
Just read.
C'est la façon dont le personnage lit les livres. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre fait de la même manière. Truffaut, lui, c'est quelque chose d'inhabituel. Montrer un personnage achetant des livres, ouvrant son sac et montrant ce qu'il a acheté. Personne d'autre ne fait ça, qui célébrerait de telle sorte ses achats. Et Truffaut aussi utilise les livres à l'écran, il remplirait le cadre avec le livre, avec des petites annotations.
Godard,
d'un autre côté, utiliserait des citations à l'écran. J'ai beaucoup aimé toujours leur amour des livres et des mots. Et j'ai ma propre façon de faire, qui en vole un petit peu, qui copie de chez eux, chacun d'entre eux, pour pouvoir exploiter mon intérêt dans les livres.
Thank you.
Gut Feeling de Devo qu'on entend sur la bande originale de votre film La vie aquatique.
Eva Bester, la 20e heure sur France Inter.
Wes Anderson, est-il vrai que vos comédiens entendent les musiques qui seront passées pendant le tournage?
Sometimes the music is on the set.
Parfois, la musique est sur le plateau.
In this film we had,
dans ce film, on a eu Stravinsky, par exemple.
Apotheose of Apollon Musaget.
D'Apollon Musaget.
We had planned the sequence to this music.
On avait planifié la séquence pour cette musique.
So it was on the set.
Donc c'était sur le plateau.
Sometimes what you need
parfois,
on the set is
sur le plateau, c'est le silence, le vide,
no
concentration totale, aucune distraction. Mais parfois la musique peut créer l'atmosphère parfaite pour jouer une scène.
Vous avez réalisé deux films d'animation, Fantastic Mr. Fox en stop motion et L'île aux chiens. Il paraît que vos premières visions pour tous les films, c'est souvent sous la forme d'un film d'animation. Et j'ai lu que vos comédiens recevaient avec le scénario un animatique. Qu'est-ce que c'est qu'un animatique ?
Ça
vient de l'animation, ça vient des films d'animation, oui. Je fais toutes sortes de films d'animation. C'est un storyboard, c'est la version du film en storyboard. De mon côté, j'enregistre le dialogue sur mon iPhone et on l'ajoute au storyboard. Donc ça fait une petite version animée du film. C'est pas pour les acteurs, c'est pour la production. Et la production parce qu'on construit les plateaux. On essaie toujours de faire un film plus grand, plus important que ce que l'on peut se permettre. Donc on tente de limiter ce que l'on construit à ce qui sera seulement dans le cadre, autant que faire se peut. Et pour moi, la meilleure façon de le faire de façon fiable, et c'est de savoir si je planifie le plateau autant que possible. Parfois, les acteurs aiment bien l'écouter aussi. Ils aiment bien voir exactement ce que moi j'ai à l'esprit. Et certains acteurs disent, bah non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je ne le propose pas, mais certains le découvrent. C'est William Dafoe qui a commencé à le dire et qui a dit aux autres, ah, faudrait que vous jetiez un œil là-dessus. Je ne sais pas si ça doit être vu par les acteurs. J'en ai pas besoin vraiment. Mais Benicio aime bien. Il a bien aimé utiliser cela.
Dernière question. Rêvez-vous toujours, comme dans votre enfance, d'un homme reptile tapis dans un coin?
Ah, yes. Yeah, it's strange. Who knows when I told someone this dream.
Dieu sait quand j'ai raconté ce rêve.
The funny thing is when you mentioned.
Le truc marrant, c'est quand vous le mentionnez, c'est que.
I know this reptile man.
Je connais cet homme reptile.
Comes from a movie.
Ça vient d'un film.
I think that's the only way he got into my dreams.
C'est la seule façon dont il a pénétré mes rêves.
Some scary movie I saw.
Un film d'horreur que j'ai vu quand j'ai eu 5 ans.
Non,
je n'ai pas.
I don't have the same fears
je n'ai plus les mêmes peurs que quand j'étais enfant. J'en ai de nouvelles.
But, you know, there's something quite nice to say.
Il y a quelque chose de joli à dire.
Those fears to bed.
J'ai mis ces craintes au lit. Et d'avoir une famille, arriver à un âge, j'ai 56 ans aujourd'hui, et les choses dont j'avais peur ne sont pas réalisées. Et en faisant tous ces films au cours de toutes ces années, c'est une forme de thérapeutique, de thérapie, Dieu sait quoi. Et ce rituel, ces rituels peuvent vous aider. Je ne réfléchis pas souvent, mais récemment, j'ai fait quelque chose dans ma vie en faisant des films.
Merci beaucoup, Wes Anderson.
Merci beaucoup, c'est un grand plaisir.
Merci pour moi aussi. Votre film The Phoenician Scheme sort en salle demain. La rétrospective qui vous est consacrée à la Cinémathèque française à Paris est visible jusqu'au 27 juillet. Le beau livre Wes Anderson, Les Archives, a été coédité par la Cinémathèque et les éditions Design Museum. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dassibat et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Alexandre Abergel. Et merci à Michel Zlotowski pour la traduction.